Maintenant, on écoute.
Ce qu'on a vécu, ça va être violent à écouter, mais la moindre des choses, c'est de l'écouter.
Le silence n'a jamais été sans violence.
Sors du silence.
Le silence est une immense violence.
Soyez prêts à écouter, même si ça fait peur, soyez prêts. On l'a vécu, vous pouvez l'entendre.
Faut que ça s'arrête.
Avertissement. Cette émission aborde le thème des violences sexistes et sexuelles.
Bienvenue dans Maintenant on écoute. Aujourd'hui, un épisode consacré aux violences sexistes et sexuelles dans le monde agricole. Un milieu que l'on imagine rude, authentique, mais qui cache aussi des rapports de domination profondément ancrés. Pendant cette émission, nous allons entendre trois femmes, trois trajectoires, trois résistances. Pour préserver leur anonymat, le prénom des agricultrices a été modifié. Nous écouterons Émilie, devenue chef d'exploitation après le décès de son mari, Laura et Justine, deux jeunes agricultrices installées en maraîchage, confrontées à du sexisme ordinaire, et Cathy, de l'association Initiative Paysanne, qui accompagne les femmes et les hommes dans l'organisation de leur exploitation agricole. Bienvenue dans cet épisode « Qui est le patron ?» Femmes d'agriculture, voix en lutte.
Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis agricultrice dans les Hauts-de-France en polyculture élevage laitier. Je suis agricultrice donc depuis plusieurs années. Je n'étais pas vouée à ce métier-là à l'origine. C'était mon mari qui était agriculteur. Malheureusement, il est décédé depuis quelques années. Nous nous sommes rencontrés très jeunes, nous avions 20 ans tous les deux. Et il m'a demandé à l'issue de ses études, à la fin de ses études, si j'étais OK pour qu'il puisse reprendre, pour qu'il puisse s'installer comme agriculteur derrière ses parents sur une ferme familiale depuis des générations. Et mon métier n'était pas du tout celui-ci. Je faisais du secrétariat. Je lui ai simplement dit que si c'est ta voie, tu l'as choisie, mais ne me demande pas d'être agricultrice parce que ça ne me convient pas. C'est pas mon métier, je l'ai pas choisi. Et en plus, dans ma famille, il y avait déjà eu des accidents et notamment un décès. Donc voilà, je voulais pas du tout replonger dans des malheurs. Donc voilà, c'était son métier, ce n'était pas le mien. Donc c'était OK, donc tout allait bien. On a repris une petite maison à côté de l'exploitation où mes beaux-parents habitaient. Enfin, eux, ils étaient sur la ferme et nous, on avait une petite maison à côté. Moi, je suis issue d'une petite ville dortoir à côté d'une grande ville. Donc je connaissais que la ville et je me suis retrouvée dans une campagne isolée. Ça a été très difficile au départ, mais bon, l'amour est là, on passe sur plein de choses et on avait des projets de famille et de belles vies.
Elle raconte son arrivée dans le milieu agricole malgré elle, prise dans un système où son rôle est présumé, car dans les campagnes, les choix individuels sont souvent écrasés par les nécessités économiques et familiales.
Au niveau des banques, je me suis retrouvée impliquée parce qu'il fallait, pour faire vivre l'exploitation, il fallait qu'il y ait des garants. Mes beaux-parents étant proches de la retraite, c'était plus sur eux qu'on allait compter. Donc il fallait quelque part de nouvelles personnes, bien sûr. Donc un homme marié, c'était logique que la femme s'y implique. Surtout qu'il y a eu des mises aux normes obligatoires à certains moments. Donc il fallait qu'on m'installe pour justement bénéficier de primes, de facilités aussi, puisque mes beaux-parents allaient partir en retraite, il fallait ne pas laisser leur fils seul, alors soit embaucher, mais embaucher, c'était payer un SMIC. Moi, allant travailler à l'extérieur pour gagner un SMIC, c'était pas jouable. Et en plus, avec des enfants, mettre les enfants à la nounou, à la campagne, en vivant à la campagne, ça allait faire beaucoup d'allées et venues, j'allais perdre beaucoup d'argent sur les transports. Bref, économiquement, il était plus intéressant que je reste sur l'exploitation et que je participe à l'exploitation pour les banques, il le fallait. Pour aussi le bien du ménage, il le fallait. Qui allait faire les repas le midi, qui allait faire les courses, qui allait aller mener les enfants à l'école, les rechercher, faire les devoirs. Mon mari, non, il n'était pas présent pour tout ça. Trop de travail. Polyculture élevage, ça représente des heures et des heures de travail.
Son mari décède, elle se retrouve à la tête d'une exploitation qu'elle n'a jamais voulu.
Après plusieurs années de collaboratrice, mon mari est décédé et je me suis retrouvée à la tête d'une entreprise que je n'ai pas choisie, que je n'ai pas voulu dès le départ. Et là, c'est le choc. C'est l'errance. On perd un mari, ok, c'est insurmontable. On se retrouve avec des enfants en bas âge. Et on se retrouve également avec une entreprise. Mon mari ne notait rien, il avait tout en tête. Il n'avait pas encore intégré les ordinateurs vraiment, donc les tableaux de chiffres. Il n'y avait rien du tout, rien. Donc à son décès, je me suis retrouvée avec page blanche, des papiers dans des tiroirs, et je me débrouille. Des vaches qui attendaient, je me débrouille. Donc j'ai eu l'aide de mon beau-père, j'ai dû embaucher un salarié parce que je me sentais pas du tout capable. J'avais plusieurs solutions devant moi, de flancher ou alors de se redresser et de dire allez on y va. Donc à plusieurs reprises j'ai dit on y va, on a des enfants. Mais on plonge derrière, mais on se redresse, on plonge, on se redresse toujours un petit peu plus. Et puis de fil en aiguille, j'ai fini par reprendre tous les papiers, de créer mon tableur, de tout rentrer. J'ai passé beaucoup de temps. Et puis finalement, j'ai continué l'exploitation. Enfin, j'ai voulu céder, mais ça n'a pas fonctionné.
Elle découvre alors le sexisme structurel du métier.
Donc j'ai continué. Et c'est là que je me rends compte de la difficulté pour une femme d'être dans ce milieu, seule avec des enfants. On se rend compte qu'il y a des problèmes d'ordre physique, d'ordre moral. Physique parce qu'on se rend compte que c'est un milieu construit par les hommes, pour les hommes. Le matériel est adapté pour les hommes. Les sacs de semences, par exemple, quand il faut monter un sac de semences pour le déverser dans le semoir, vous avez des marches et vous avez le sac de 25 kilos sur les bras. Quand vous êtes fluette, c'est difficile, avec les risques de tomber, de chuter. Pour, par exemple, on distribue l'alimentation aux vaches laitières sur leur table, c'est-à-dire devant leur museau, tout le long des cornadis. Et puis, au bout d'un moment, quand elles ont mangé leur part, il y a toujours des restes. Elles poussent avec leur nez. Donc, il faut, avec un rabot et manuel, parce que je ne suis pas encore mécanisée, je suis obligée de pousser l'alimentation vers leur tête pour qu'elles puissent continuer à manger. Donc ça, c'est très lourd de pousser sur plus de 50 mètres, enfin sur 50 mètres de long, hein, bâti sur une longueur de 50 mètres de long. Il y en a encore plein d'autres d'exemples. Des quais, des salles de traite avec un sol bas. Si on est petite, on est obligé d'adapter à la hauteur. Donc c'est soit mettre un fond sur vérin hydraulique qui s'ajuste à la hauteur de la personne pour qu'elle soit à niveau des pieds des vaches. Et si vous trayez à deux avec un grand salarié ou une grande salariée et que vous êtes à côté et vous êtes petite ou alors vous êtes grand, enfin l'inverse, vous n'êtes pas à la hauteur adaptée. Donc là, moi, j'ai opté pour en attendant de voir une solution, j'ai opté pour des palettes pour mettre au sol pour pouvoir monter, pour me surélever. Mais le problème, c'est que il faut pas trébucher quoi. Quand on évite un coup de patte, il faut pas avoir un geste de recul brutal, sinon on peut vite être déséquilibré et on peut se blesser.
Et puis, il y a les représentations.
Vous êtes confronté à des représentants, des collègues de travail ou pas forcément les collègues de travail parce qu'ils vous connaissent, mais des gens extérieurs, oui, des commerciaux par exemple. Quand ils arrivent, on voudrait voir le patron, vous l'avez en face. Donc ils n'ont pas forcément une logique qu'une exploitation, ça peut être une femme qui la détient. Depuis un an, j'ai mon fils qui est salarié chez moi parce qu'il a fini ses études agricoles, parce qu'il souhaite être agriculteur comme son père. Quand un représentant ou une personne vient surtout de sexe masculin, on s'adresse, si on est à deux, on s'adresse plus à mon fils qu'à moi. Par contre, quand c'est une femme, le rapport est tellement fluide, tellement simple. Elle s'adresse à une femme, mais aussi à un homme, et il n'y a pas... On ressent pas cette différence, ce genre.
Ce « il est où le patron ?», Laura, maraîchère, l'a aussi vécu.
Ça m'est arrivé l'année dernière d'un commercial qui s'est arrêté à la ferme parce qu'il a vu le panneau devant. Et en plus, le gars arrive pour vendre un produit. Pas de chance. Il arrive, moi j'étais en train de désherber ou je ne sais quoi. Il passe devant moi, il ne s'arrête pas. Il ne me dit même pas bonjour, je crois, bon. Et en fait, il y avait un groupe d'hommes un peu plus loin, mon mari, plusieurs personnes qui discutaient. Et il arrive à hauteur du groupe d'hommes et il dit « Il est où le patron pour que... » Enfin voilà, c'est qui le patron J'aimerais me présenter, etc. Et en plus, parmi ce groupe d'hommes, il n'y a personne qui a eu la présence d'esprit de dire « Mais en fait, la patronne, elle est là-bas. » Alors qu'officiellement... Il n'y avait que moi comme chef sur place, en fait. Je suis la seule à avoir fait les emprunts à la banque, à avoir, avoir le statut officiel de chef d'exploitation. Mon mari est un statut à la ferme, il est présent, il est conjoint collaborateur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas décisionnaire avec moi sur des choses qui concernent la ferme, parce que je prends en compte ses décisions. Mais n'empêche que, en fait, si une personne extérieure arrive sur la ferme, légitimement, c'est à moi qui devrait s'adresser. En fait.
Et c'est pas aussi frontal que ça, c'est plus insidieux et ça va être plus dans laisser la prise de parole, prendre au sérieux en tout cas et remettre en question, ça peut être remettre en question nos techniques, ça arrive régulièrement. En fait, tout dépend les partenaires avec qui on travaille. S'il va y avoir plusieurs hommes sur l'exploitation. Même si vous êtes chef d'exploitation, c'est pas vous qu'on regarde, c'est pas vous qu'on parle. Enfin, faut s'imposer. En fait, faut régulièrement s'imposer, dire hé, je suis là. J'ai eu des expériences comme ça où je l'ai assez mal vécu. Et des fois, on se dit est-ce que, enfin, on en ferait pas trop. Des fois, apparaître un peu dingo. Mais ou c'est peut-être pas moi qu'on tenait au courant d'un problème technique qu'il pouvait avoir sur la ferme, et il fallait que j'aille chercher les informations à droite, à gauche pour qu'on m'en parle. Mais sinon, spontanément, on venait pas. Mais ça peut être, ou ça peut être juste quelqu'un qui passe sur la ferme, mais il va voir le premier homme sur la ferme et c'est lui qui va aller parler. Il n'y a jamais cette question qui est le chef d'exploitation. Personne ne pose jamais cette question. On va voir directement le premier homme qu'on voit sur son passage et on va lui parler. Donc, en fait, on doit perpétuellement s'imposer, taper du poing sur la table, parler un peu fort pour qu'on nous écoute. Et je ne suis pas sûre qu'on nous prenne vraiment en compte derrière quand même.
On fait beaucoup d'aménagements sur la ferme. On fait beaucoup de construction, de bâtiments. On installe des serres tout le temps, des nouveaux trucs. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois... ce truc-là a l'air un peu lourd. Non, mais le fais pas, je le fais. Va faire autre chose. On m'a déjà dit clairement, va faire autre chose, va désherber. Donc j'étais un peu mise à l'écart des constructions en cours, quoi. Il y a eu ça. Après, j'ai déjà eu des phénomènes de situation. Je fais partie de groupes aussi d'agriculteurs. Il y a un groupe en particulier où j'étais la seule femme. Et ça a changé récemment. Et où un de mes confrères était en liquidation judiciaire et il se permettait de me donner des conseils sur ma politique prix parce que visiblement ma politique prix était mal choisie et que j'avais une mauvaise stratégie économique. Le gars était en liquidation judiciaire. Et lui, sans sourciller, il n'a pas de problème à me donner des conseils, quoi. Et en plus, à me dire que je suis dans l'erreur, que je fais mal les choses. En tout cas, après, voilà, peut-être qu'il se l'est permis aussi, mais moi, pour en avoir parlé du coup à d'autres confrères de cette situation-là, ils m'ont dit que eux, ils avaient plutôt la paix, quoi. Que quand ils parlaient de eux, leurs pratiques, etc., c'était pas remis en cause spécialement. C'était plus « Ah ouais, tu fais ça ? Ah ouais, c'est intéressant. Bah, moi, je fais pas comme ça. Moi, je fais autrement. » Alors que moi, quand je parle de technique agricole, « Ah mais ça marchera jamais, ton truc. Tu verras, au bout de 2 ans, tu seras complètement envahi de mauvaises herbes et en fait, ça marchera pas et tu te rendras compte qu'il va bien falloir que tu te résignes à labourer. » Alors que le non-labour, c'est pratiqué dans plein d'autres fermes, à l'international, et en fait, ça a fait ses preuves depuis très longtemps, et nous, on n'a pas inventé l'eau chaude en pratiquant le non-labour sur notre exploitation, mais bon, voilà. Quand ça sort de notre bouche, visiblement, c'est pas crédible.
Justine raconte aussi l'infantilisation.
En fait, on a eu un salarié cette année et avec qui ça a été assez compliqué parce que très vite, il est arrivé dans une posture paternelle. Je pense que c'est dû au fait que j'étais en train de m'installer, donc je n'étais pas... légalement installé sur la ferme, j'étais encore en parcours d'installation, et qu'on avait le même âge. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué sur... mais bon, voilà, en fait, ça reste... Toutes ces attitudes-là restent dans des détails, mais quand on accumule tous les détails dans la journée, mais voilà, ça va être... il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. C'est pas méchant, mais je t'ai jamais demandé à aucun moment de me donner un conseil sur une culture. Voilà, on est en association avec mon associé, on réfléchit à ce qu'on veut faire, il y a tout un planning qui est fait, tout est réfléchi en amont. J'arrive pas le matin en me disant comment on va faire tout ça. Enfin, en fait, tout est... Et oui, après, tout ce qui va être amené aux installations techniques, dès que je reste un peu trop dans les parages, on va me dire « bah, va là-bas, va faire tes trucs ». Si j'ai envie de regarder ce qui se passe et savoir comment ça fonctionne, c'est mon choix, en fait. Mais voilà, il faut toujours s'imposer, se justifier. Et c'est assez fatigant. Donc, il faut réussir à faire passer ce message que, voilà, on est, même si on est des femmes, on est des chefs d'entreprise, qu'on sait ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Et donc, faire passer ce message, tout en ne passant pas pour une hystérique qui est dans sa période, parce que c'est comme ça qu'on souvent le justifie, et en gardant son sang-froid.
Toi, tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi, tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs, on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi, tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi, d'ailleurs, quand elle était en pleurs. Toi, tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la reine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la reine. Toi tu voulais être musicienne. Ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit je suis désolée, mais à de ces malheureux on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié. Mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Depuis toujours, tu sens que c'est un décorum. Toi, tu as décidé que pour être libre, tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans les nuits s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine. souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine.
Moi, je suis Cathy Kainec, je suis salariée dans une association qui s'appelle Initiative Paysanne. Je suis animatrice agriculture paysanne. Et Initiative Paysanne, c'est une association qui accompagne des agriculteurs de leur projet d'installation jusqu'à leur retraite, à la transmission de leur ferme, dans une démarche d'agriculture paysanne. Donc, qui a un projet d'agriculture sur des petites fermes, à échelle humaine et respectueuse de l'environnement et des hommes. Mon travail en tant qu'animatrice agriculture paysanne, c'est d'accompagner les paysans et paysannes déjà installés sur tous les changements qu'ils veulent mettre en place sur leur ferme et sur la pérennisation des fermes tout au long de leur parcours. On organise des temps d'échange en collectif, on fait de l'accompagnement individuel. Et à l'initiative d'adhérentes, il y a eu cette idée d'aborder la thématique des femmes dans le monde agricole. C'est des choses qui se faisaient déjà ailleurs en France, de travailler sur ce sujet. Il y avait des collectifs en non-mixité qui se réunissaient déjà ailleurs. Et donc, en fait, depuis 2021, il y a eu cette idée de commencer à mettre ça en place dans la région. Et donc les premiers temps d'échange en non mixité, ils ont été créés dans les années ils ont été créés en 2021. Cette thématique, elle a pris de l'ampleur au niveau de l'association. Ça a commencé avec un temps en visio avec quelques paysannes qui étaient curieuses. Il y a eu deux premiers groupes qui ont été créés dans la Vénois et sur le Cap et Marais d'Opale dans le Boulonnais. Et ça a évolué. Le groupe du Boulonnais, il s'est un peu décalé sur le territoire. Les rencontres ont plutôt lieu dans les Flandres maintenant. Et là, depuis l'année dernière, il y a un groupe qui s'est créé à Amiens et qui est plutôt dynamique. Et il y a beaucoup de paysannes qui ne sont pas dans ces groupes-là et qui sont intéressées par la thématique aussi, qui envisagent de créer des groupes sur leur territoire ou qui veulent participer aux échanges. Qui participent aussi à des formations en non-mixité qu'on organise. En tout cas, c'est une thématique dans le réseau qui est importante pour tout le monde. Et au niveau national, c'est aussi parce qu'on fait partie d'un réseau national, donc le réseau de la FADEAR, qui est lié à la Confédération Paysanne, au syndicat de la Confédération Paysanne. Et au niveau national, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans nos réseaux et puis pour que ce soit quelque chose qui soit vraiment promu sur les fermes qui sont dans notre réseau. Le but des rencontres en non-mixité, c'est de proposer un espace et un temps pour que toutes les paysannes et les porteuses de projets qu'ils souhaitent puissent parler de leur situation et échanger avec d'autres qui ont un peu la même expérience de difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Ça arrive assez souvent qu'il y en a qui témoignent d'une frustration, de situations pas forcément dangereuses qu'elles aient vécues, mais frustrantes sur une remise en question de leur légitimité, sur des remarques insidieuses qu'elles ont pu recevoir. Et le but, c'est de pouvoir échanger ensemble sur cette situation. Nous, on a aussi des outils d'animation pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Donc, on a ce qu'on appelle le co-développement, où en fait, à partir d'une problématique développée par une des paysannes, on va réfléchir ensemble à ce qui a déjà été mis en place par cette paysanne, ce qu'elle pourrait mettre en place pour essayer de débloquer cette situation, que ce soit sur des relations problématiques avec des fournisseurs ou ça peut être du lien avec du voisinage. Et À Amiens, par exemple, on a un peu identifié qu'il y avait la question de la légitimité en tant que paysanne et pas seulement en tant que d'avoir un projet de vie et de faire son jardin, qui est un peu la perception qu'elle ressent du regard extérieur. C'est un problème qui est partagé par plusieurs personnes et donc l'idée, ce serait de proposer une formation sur l'autodéfense verbale. C'est quelque chose qu'on a déjà organisé sur d'autres territoires en 2022 et donc on aimerait bien pouvoir mettre en place ici bientôt.
Il y a vraiment de la sidération. En fait, moi, c'est vraiment ce qui me vient en premier et d'ailleurs, c'est ce qui nous empêche de réagir sur le coup parfois. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, l'expérience que j'ai eue avec mon confrère en liquidation qui s'est permis de me donner des conseils sur ma politique prix, ou alors un autre confrère qui critique ma technicité agricole parce qu'il en a simplement une différente. On se met sur la défensive quand on répond. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça sans être sur la défensive ? Quand on est dans un état de sidération, on répond simplement pas, et ça, c'est un problème. Moi, cette expérience du commercial qui est passé devant moi et qui m'a ignoré, le truc étant qu'en fait, j'en ai reparlé à mon mari derrière qui m'a dit « Bah ouais, en fait, j'ai été con de pas l'envoyer vers toi et de réagir comme si, en fait, c'était moi le patron, alors qu'en fait, c'est dans les faits, en plus, c'est pas moi. » Ça n'a pas été un sujet de dispute parce qu'il était d'accord avec moi, en fait. Mais force est de constater qu'il n'a pas réagi comme il aurait dû s'il voulait avoir un comportement égalitaire, en fait. C'est qu'il a une capacité de remise en question, et ça, c'est précieux. Franchement, de toute manière, je pense que c'est ce qu'il peut y avoir de plus précieux pour une femme qui s'installe dans un domaine agricole ou un domaine dit masculin, c'est d'être au moins, si elle est associée avec un homme ou plusieurs hommes, au moins avec des hommes qui ont une capacité de remise en question, sinon quel enfer, quoi.
Les groupes deviennent des refuges.
On se réunit et ça nous permet de pouvoir relâcher toute cette pression, en discuter, savoir qu'on n'est pas seul. Je pense que c'est important, de manière générale, de toute façon, dans l'agriculture, de ne pas s'isoler, parce qu'on peut être très vite isolé, et surtout en tant que femme.
Moi, à ma connaissance, la Confédération Paysanne, c'est quand même le seul syndicat agricole qui prend en compte, justement, les problématiques des femmes comme un problème à part entière. Donc ça, c'est quand même c'est assez intéressant. Oui, à Initiative Paysanne, il y a plusieurs groupes de femmes dans la région. Il y en a des plus actifs que d'autres, parce qu'il y en a des plus anciens que d'autres aussi. Pour celui dans lequel on est impliqué, l'élément déclencheur, c'était effectivement en fait, de s'apercevoir, au cours de formation, qu'en fait, entre femmes, on a une problématique très commune qui est l'immensité de la charge mentale. Parce qu'en fait, ce qui est assez particulier dans le milieu agricole, c'est que le domaine professionnel et la vie privée sont très liés. Il y a beaucoup de ponts. Souvent, le projet d'entreprise agricole, en fait, c'est un projet de vie où on aspire à voir grandir nos enfants à la ferme. Notre organisation professionnelle prend beaucoup en compte l'organisation familiale et vice-versa. Et le fait est que déjà, un foyer pour une femme, c'est énormément de charge mentale. On le sait maintenant, il y a beaucoup de recherches là-dessus qui attestent que un couple hétérosexuel représente beaucoup de charge mentale pour une femme. Quand on rajoute un enfant, deux enfants, c'est à chaque fois de la charge mentale en plus. Et en fait, quand on rajoute une entreprise agricole, c'est vraiment une explosion de charge mentale. Et ça, c'est quelque chose dont on témoignait entre nous, entre femmes, et on s'est dit, on a vraiment besoin de solutions là, parce que c'est tellement lourd que ça met clairement en danger notre santé mentale, en fait. S'en est là.
On a identifié au niveau national deux dimensions pour lesquelles l'installation des femmes, c'est un sujet, c'est un enjeu assez important. D'une part, c'est que dans un contexte de vieillissement de la population agricole et du fait qu'un grand nombre de fermes ne soient pas reprises, favoriser l'installation des femmes, c'est aussi un levier pour limiter la réduction de la population agricole et continuer d'avoir des fermes nombreuses sur le territoire. Et l'autre aspect, c'est que il y a des études qui montrent que la transition agroécologique peut
largement passer par l'installation de femmes en agriculture, parce qu'on se rend compte qu'il y a sur les fermes beaucoup d'initiatives de transition agroécologique sont portées par les femmes. De par leur éducation, elles ont aussi une approche sur le respect de la nature et aussi le bien-être au travail qui est plus importante. Et donc, en favorisant la pérennité de fermes sur lesquelles il y a des femmes, c'est aussi un levier pour accompagner la transition agroécologique sur les territoires.
En 1961, le mot agricultrice fait son entrée dans le dictionnaire Larousse. En avril 2023, naît le hashtag MeTooAgricole. D'où vient ce mouvement ? Laura Chalandard, éleveuse de brebis et de poules pondeuses, crée en parallèle de son exploitation un compte Instagram. Elle y relaie des témoignages anonymes de victimes de violences sexistes et sexuelles pour les visibiliser.
Un jour, j'ai eu un rendez-vous avec un commercial. Il m'a appelé pour me dire qu'il était arrivé. Il se situait à l'entrée d'un chemin un peu paumé à 500 mètres de l'exploitation. Il m'a demandé de monter dans sa voiture pour me présenter des documents. De là, s'est suivi de longues minutes où il a, avec insistance, scruté toutes les parties de mon corps sans jamais me regarder dans les yeux. Je n'ai jamais été aussi mal à l'aise et vulnérable de toute ma vie.
Je suis lycéenne en agriculture, ce qui me donne l'opportunité de faire des stages dans des exploitations agricoles. Lors de mon dernier stage, j'ai dû monter seule entourée de 8 hommes plus âgés dans une cabane pour poser une baronne. Ils commencent à travailler et évidemment je propose mon aide, ce à quoi on m'a répondu « Non, y a rien pour toi, t'es faible ». Suivi de rire. Je me tais pour éviter de créer des ennuis avec mon maître de stage. Vient l'heure du midi, ils mangent comme des animaux et partent en laissant tout en vrac. Pour faire bonne impression, je nettoie pour laisser l'endroit propre. L'un d'entre eux revient et me lance « C'est bien poupée, tu sais nettoyer ». Ça s'est passé au début de mon stage, on m'a appelé poupée jusqu'à la fin et on me faisait faire la vaisselle et le linge. Soit zéro rapport avec l'objectif de mon stage. Avec comme argument, c'est à ça que servent les femmes dans l'agriculture poupée.
Ça m'est arrivé plusieurs fois depuis mon installation, mais je me souviens de cette fois-là. J'étais en fromagerie, un client vient. Il se trouve que ce client est un voisin à qui on avait demandé un bail pour un terrain. En récupérant son fromage, il me dit « embrasse-moi ». Je n'ai vraiment pas compris ce qu'il m'a dit. Surtout, vu la différence d'âge, ça m'aurait même pas traversé l'idée. Il m'a redit « embrasse-moi ». J'ai bégayé un non en fermant la porte, me sentant d'un coup en insécurité.
Pas de violence, mais un jour j'ai été faire une demande de stage dans une exploitation et le gars m'a répondu « non, désolé, je prends pas de stagiaire fille ». Je lui demande pourquoi et il me répond « Il y a des sauts à porter, des barrières à faire et faut être réaliste, vous avez moins de force qu'eux. » Bim ! 10 ans après, je me revois dans cette cour de ferme à rester bouche bée face à ce connard.
Pas de violence mais du sexisme. Quand je ne pouvais plus monter en tracteur avec mon chef parce que les voisins allaient croire qu'il me sautait. Quand j'étais trop faible physiquement pour nourrir les bêtes ou travailler dehors, mais que je devais porter des caisses d'un tiers de mon poids au labo. Quand j'étais payée au SMIC depuis plusieurs années alors que mon conjoint, à peine embauché, était rémunéré 14 euros net de l'heure. Quand j'ai émis le souhait de m'associer pour reprendre la ferme plus tard et qu'on m'a répondu préférer mon conjoint qui n'avait aucune expérience.
Le hashtag MeTooAgricole a permis une chose essentielle, débloquer la parole et montrer que ce ne sont pas des cas isolés, c'est un système. Aujourd'hui, les femmes représentent un quart des chefs d'exploitation, co-exploitantes ou associés, soit 130 200 au total en France. Cet épisode de Maintenant on écoute a été réalisé par Inès de Winter et Colline Fauvé avec la participation d'Aline Lafoy pour Radio Campus Amiens. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Feel.
It's a new dawn, it's a new day, and a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. It's a new dawn, it's a new day, and a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done. Well, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. And I'm feeling good. And I'm feeling good.